Vous écoutez
RMC.
Simone, bonsoir.
Ciao, buonasera, bonsoir. Je suis globalement d'accord.
Sur le boulard?
Sur le boulard, probablement. Oui, parce que Daniel a souvent raison. Sur
tout le monde. Je pas d'avis, c'est pas grave. Hein,
non, tout à l'heure, mais... il a vu sur Internet. Tu sais, avec.
Là, on était sur Simone, là.
Je termine sur Rennes, après, je donne la parole.
Simone.
Juste, c'est pour terminer sur. C'est pour terminer quand on me dit. Parce que Julien Stéphan a beaucoup échappé à la critique et tout. Sur les 25 derniers matchs de Rennes, ils n'en ont gagné que 7.
EA Sports, it's in a game. Gagnez maintenant
votre jeu FIFA 20 et votre PlayStation 4.
Envoyez FIFA par SMS au 732-16.
C'est pas exprès.
C'est parce qu'il y a des René qui en ont marre que Daniel parle de Stéphane. Ils ont envoyé, poum. Gagnez maintenant votre jeu FIFA 20 et la PlayStation. Vous envoyez FIFA par SMS au 732-16. Vous avez entendu le message. Simone, alors sur la Lazio, moi je suis assez d'accord avec ce qu'on dit là. C'est qu'effectivement, ils ont joué à leur main. C'est-à-dire que pendant 8 ans, bon. Ils ont été moyens, puis quand ils ont décidé de s'énerver pour gagner, ils l'ont fait, quoi.
Oui, l'effet que le but de Rennes arrive une minute après l'entrée en jeu de Milinkovic et Luis Alberto, c'est un hasard, c'est un coup de pied arrêté. Mais à un certain moment, Simone Inzaghi s'est dit, bon, on va gagner ces matchs. Parce que, sincèrement, la Lazio, en première mi-temps, avait tout fait pour perdre ces matchs. Ils avaient rien fait dans la proposition offensive. Ils avaient mal tenu les ballons. La transmission des balles était lente, prévisible. C'est-à-dire, c'était une des pires Lazio de la saison. Mais c'était presque une choix de Simone Inzaghi. Quand tu alignes 7 remplaçants au coup d'envoi, tu t'es dit, ça suffit pour faire mal, peut-être en deuxième mi-temps, on va gagner. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Milinkovic, on est encore loin du joueur que je mets toujours en chapeau, mais on voit que c'est un joueur qui, sur un match comme ça, t'échange totalement la dimension du match, avec son physique, avec sa qualité
de passes,
de frappes.
Et de ses partenaires.
Oui, mais aussi c'est que on parle beaucoup de Milinkovic parce qu'il était décisif, mais même Luis Alberto, quand il prend les ballons, il les transmet tout de suite, il fait tourner rapidement les ballons, la justesse technique du côté du centre dans l'axe, il mettait à droite, à gauche.
Ouais, mais moi j'ai trouvé, alors je sais pas toi, j'ai trouvé par exemple Immobile beaucoup plus mobile à la rentrée.
Quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui te donne les appels,
il change ses partenaires. Il change ses partenaires. Il fait le jeu sans ballon.
Avec tout le respect, Berisha et Cataldi, qui font quoi? Ils font le travail qu'ils font, c'est-à-dire d'être des bons.
Exactement,
mais c'est ce que je dis. Mais Immobile, pourquoi doit faire 30 appels en première mi-temps si c'est qu'il n'aura jamais un bon ballon? Tu vois.
C'est ce que je dis. Il change
la ligne,
il change l'attitude de ses partenaires par
son présence. Dans les 30 derniers mètres de Rennes de l'entrée de Milinkovic. Sauf pour ce but que j'ai dit arrive par Rennes, mais vraiment sur l'action immédiate après l'entrée en jeu. Donc, Simone Inzaghi avait dit on va gagner les matchs. Il a dû faire des 0-1. Donc, il a eu besoin de deux buts. Mais dès qu'il a dit, on va gagner le match, là, tu l'as gagné.
Après, ce qu'il faut dire, c'est que, et les Italiens sont très forts tactiquement là-dessus, ils te donnent toujours l'impression que tu vas gagner. Je les ai joués plein de fois, les Italiens. T'as toujours l'impression que tu vas gagner. Qu'il disait dans son interview. Le Rennais,
Grenier
le disait, on a fait pratiquement jeu égal. Tu fais tout le temps pratiquement jeu égal. En première mi-temps, tu penses tout le temps que t'es pratiquement prêt, t'es proche de marquer, mais tu marques pas. C'est-à-dire qu'ils te font, le 3-5-2 est un jeu très éprouvant. Ils t'attirent vers leur but. Ils maîtrisent. À chaque fois qu'ils t'attirent, ils maîtrisent ça. Ils te fatiguent. Et t'as l'impression, tu dis, mais t'arrives jamais à marquer. T'as l'impression que tu vas marquer, tu marques pas. Et en attendant, tu t'es fatigué. Et eux, quand ils décident de balancer leur torpille, ils mettent un ou deux scuds, ils te font rentrer un Milinkovic, et là, tout d'un coup, t'en prends un, tu dis, mais c'est contre le cours du jeu. Et pourtant, on a fait jeu égal, on aurait même pu gagner. Et c'est tout le temps la même sauce contre les Italiens. Mais c'est une maîtrise de l'espace, une maîtrise tactique et une maîtrise de ce genre de match, c'est culturel.
Ouais, mais
honnêtement,
face à une équipe qui est plus faible, parce que la Lazio s'est fait ce match-là.
Bien évidemment,
face
tu à sais
Juve,
tu le fais
bouffer.
Mais parce qu'ils ont étudié Rennes et ils savent pertinemment que les Rennais, en seconde période, ils sont pas bien.
Rennes, Starkocha n'a pas fait des grands arrêts.
Ça fait un plan de jeu.
N'a pas fait des grands arrêts, les gardiens de la Lazio en première mi-temps. L'occasion du penalty qui devait être sifflé parce que la main de Acerbi.
Par contre, il y a deux pénaux.
Non, il y en a au moins un. La main.
Le premier, il le prend la hanche. Pour moi, il y a deux pénaux.
Ouais, le premier, le deuxième.
Ah, pour moi, il y a deux pénaux.
Pour moi, après, c'est les Rennais qui s'ajoutent. Mais
toi, t'es italien.
Mais non, moi, je. On a parlé avec
S'il vous plaît, on va accueillir Pierre au 32-16 dans quelques instants. Mais d'abord, on écoute Olivier Létang, interrogé par Momo il y a quelques instants, après cette défaite de Rennes.
Certains de vos joueurs évoquent, et notamment votre capitaine Damien Sylvain, un manque d'expérience, parfois de maturité dans certaines séquences de jeu. Est-ce que c'est vous aussi votre sentiment dans le contenu que vous avez vu ce soir ?
Non, je sais pas. Le contenu du match était vraiment très très bon. Je pense qu'un nul à minima aurait été logique. Si on prend le match de Marseille et le match de ce soir, moi je vais plutôt insister sur faire encore plus, être encore plus déterminé, je pense notamment offensivement, parce que si on marque les occasions que nous avons, probablement que le match n'est plus le même. Donc c'est vraiment ce sur quoi il faut travailler, mais en étant très positif par rapport à ce qu'on a vu ce soir.
Président Létang, ça fait 7 matchs sans victoire pour le Stade Rennais. Mbaye Niang à notre micro disait, il faut pas parler de crise par exemple. Qu'est-ce que vous retenez et surtout comment sortir de cette période qui n'est pas encore de crise, mais 7 matchs sans victoire pour le Stade Rennais, c'est beaucoup.
Non, franchement, on est absolument pas en crise. J'aime pas ce terme-là. On a beaucoup de calme, de tranquillité en interne, beaucoup de confiance dans les joueurs, dans le staff, dans tout le monde. Donc, on sait que le contenu, encore une fois, que ce soit à Marseille ou ce soir, a été très intéressant. Donc, il faut qu'on fasse encore plus pour inverser le cours des choses et aller chercher des victoires. Mais encore une fois, on va le faire en restant très soudés, très solidaires, en avançant tous ensemble.
Merci, voilà Mohamed Bouafsi pour cette interview d'Olivier Létang. Et Pierre est là au 32-16. Salut Pierre.
Salut la team, ça va ?
Salut Pierre.
Pierre, je te propose qu'on fasse une petite évaluation ensemble. Qui t'a trouvé bon, pas bon, Taulier, pied carré, Boulet, je te laisse la main.
C'est difficile de faire, de mettre des pieds carrés ou autre chose. En fait, moi, je voulais surtout revenir sur le manque d'ambition. En fait, moi, j'en ai un peu ras-le-bol des équipes françaises. Donc là, je vais parler de Rennes, mais aussi en général, qui viennent à l'extérieur et qui se disent, si on a un nul, c'est très bien, parce que clairement ce soir, quand tu regardes la première mi-temps et l'équipe, tu te dis, quand t'as pas envie de gagner, tu gagnes pas très clairement. Hein. La première mi-temps, moi, j'ai trouvé déjà que c'était un match moyen. J'étais pas du tout d'accord avec l'analyse de Daniel à Marseille, notamment. Parce que moi j'ai trouvé qu'on avait plutôt bien joué. Du coup là il a remis la même équipe et là clairement il n'y avait pas de latéraux qui montaient, 5 derrière. Je suis pas forcément fan des 5 derrière, mais je trouve que avec les joueurs qu'on a à Rennes, même si je trouve que le mercato on l'a pas forcément réussi, on peut quand même faire beaucoup mieux que de jouer à 5 derrière. On a quand même des joueurs de ballon. T'as Clément Grenier, t'as un garçon comme Jonas Martin, Flavien Tay. Est-ce que jouer en 5 à 5 derrière, est-ce que c'est vraiment le truc idéal? Et du coup j'en ai un peu ras-le-bol de cette frilosité qu'il y a dans tous les clubs de Ligue 1 en général. Et au-delà de ça, il y en a beaucoup qui vont dire ah oui, on peut avoir des regrets, mais moi je trouve qu'on peut pas vraiment avoir de regrets sur ce type de match, parce que les mecs au final, la Lazio, alors je pense que Simonet va me reconfirmer, mais je pense que la Lazio c'est clairement pas leur priorité la Ligue Europa, parce que quand tu vois il y a personne dans le stade, il met l'équipe B. Et les mecs, ils accélèrent pendant une demi-heure avant la fin et ils t'en plantent deux et ils gagnent sans forcer. T'avais pas l'impression que les mecs, ça leur posait plus de problèmes. Ils ont quasiment jamais douté. Donc
sur le manque d'ambition d'abord là des clubs français, messieurs, puisque Pierre veut pas faire d'évaluation, vous l'avez bien compris. D'accord avec lui ou pas, Lionel?
J'ai trouvé que moi que les Rennais avaient bien entamé, ils ont joué beaucoup plus haut. C'est pas parce que tu joues dans un 3-5-2 ou un 5-3-2 que c'est un dispositif défensif. Si tu fais un 3-5-2 avec et tu mets 6 attaquants par exemple, tu t'es pas dans un dispositif défensif.
Oui, mais ça c'est
défensif.
Ce qu'on disait également dimanche avec Pierre.
Ouais.
Il n'empêche, ça tu as raison, ça dépend de l'animation. Il n'empêche que avec Rennes, il y a toujours cette tendance à de temps en temps. Alors, ils ont une particularité, c'est qu'ils le font souvent au début de match. Et le début de match de ce soir, par exemple, comme à Marseille. Ça a duré un peu plus longtemps, ça a duré toute la première période. On va dire une vingtaine de minutes. Ils démarrent très haut. Et rapidement.
Mais le 3-5-2 te permet de faire ça.
Exactement.
Et si tu le fais pas, t'es dans la bouille.
Exactement. Sauf que rapidement,
il
y a une sorte de contre-coup et ils sont sans arrêt tirés en arrière. Comme si il y avait une sorte de culture profonde qui les ramenait à une réalité
de c'est physique.
On en fait trop. Ah, si c'est physique, alors là, je m'inquiète carrément parce que là, moi, je peux pas comprendre ça.
Est-ce que pour faire un 3-5-2, il faut quand même avoir des mecs qui aient la caisse sur les côtés. Est-ce qu'un Traoré est vraiment capable ou un Doumbia de l'autre côté ont vraiment la caisse pour faire des 100 mètres et des 100 mètres?
Pour faire ça, Lionel, je suis d'accord avec toi, il faut la caisse physique.
Ah oui.
Pour être les deux mecs qui sont comme ça, dans les 3-5-2 qu'ont marqué le foot, qu'on se souvient, les deux là, il faut souvent que ce soit non seulement des mecs capables de faire beaucoup d'efforts, mais des mecs avec une très bonne technique.
Oui, aussi. Hein,
il faut qu'on s'arrête là, les gars.
C'est pas souvent le cas.
Mais Simone de Versi,
au moins que t'es la pour
de la Roma qui a fait un partout.
Il faut quand même être capable de faire beaucoup de choses avec le ballon. Donc parce que souvent, tu vas dans le milieu de terrain. Et dans le milieu de terrain, il faut manier un
pas
peu.
Pas si mauvais.
La Lazio sauve une semaine européenne qui, sinon, c'était pas extraordinaire. Parce que c'est seulement deux victoires Lazio Juve cette semaine. C'est pas extraordinaire.
Ouais, et la Roma a fait un partout face à Wolfsberger, club autrichien.
Ah oui, quand même.
Salut Simone.
Les Autrichiens se débrouillent très bien.
Les Autrichiens, pas mal les Autrichiens. Que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League.
Ouais, ouais.
Et Polo Breitner qui nous rejoint pour parler de Wolfsburg, entre autres, car Saint-Etienne a rencontré Wolfsburg tout à l'heure. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Avant de parler de Wolfsburg et de Francfort qui a joué également ce soir, un mot de la succession, et avant de parler de Saint-Etienne, un mot de la succession de printemps annoncée. Hein, on a l'impression que c'est déjà quasi fait, même si ça ne l'est pas. Vraisemblablement, donc, les infos qu'on a ce soir, c'est que Claude Puel est toujours dans les tuyaux, qu'on a la volonté au club qu'il soit sur le banc dès dimanche pour le derby, que Puel, semble-t-il, tout de même, un brin élégant, a dit, attendez, on va quand même pas annoncer aujourd'hui, alors qu'il y a un match, un changement d'entraîneur, je ne veux pas, attendons la journée de demain. Voilà, donc ça pourrait être officialisé demain, l'arrivée de Claude Puel à Saint-Etienne. On sait qu'il a vu les boss, enfin au moins l'un des deux, Romain en l'occurrence. Donc voilà la situation ce soir.
Mais jusqu'à ce jour, personne n'est allé voir l'entraîneur actuel.
C'est ce que j'allais dire. J'espère quand même que un des deux présidents ou les deux présidents ont demandé à rencontrer le Ghislain Printemps.
Le coach, à ce jour,
pour lui parler encore de cette
maintenant,
situation.
Personne n'est allé voir le coach actuel de Saint-Etienne. Pour lui dire,
tu t'en vas,
tu ne seras pas sur le banc, tu ne seras pas sur le banc dimanche. Personne n'est allé, personne lui a dit, tu n'es plus l'entraîneur.
Oui, après c'est pas la première
Peut-être
fois qu'on voit ça.
Ça va être fait ce soir. Non, mais c'est pas parce que ça a toujours été fait qu'il faut continuer à faire des choses.
Tu as raison, Lionel. Bon, enfin, voilà, on est dans un quand même.
Normalement, ce sont des.
Le monde du foot ne se caractérise pas par son élégance, de façon générale.
T'as raison, Gilbert.
Non, mais c'est vrai.
Peut-être plus spécifiquement dans le Forez.
Oui, non, mais attends.
Dire qu'il y a encore moins d'élégance dans le Forez.
Écoute, moi, je connais un petit peu ce qui se passe là-bas, mais très modestement. J'ai rencontré certains jours aussi ce qui se. Enfin, il y a des choses, c'est pas normal, quoi, quand même.
Tu veux dire que. Toi, tu dis, ça se fait, c'est pas. Le mec, il est entraîneur ce week-end, à Nîmes, il gagne le match. Tout le monde dit il va être sorti, ceux qui ont les infos autour du club le disent dès dimanche. Puel est en vacances, il rentre, les présidents le rencontrent mardi, ils se mettent quasiment d'accord. Ils se mettent d'accord, c'est pas pour Wolfsburg parce qu'il y a pas le temps, mais c'est pour le match d'après et on est jeudi soir. Et donc c'est absolument après, dans les mœurs après, du Daniel, foot que train... personne ne soit allé voir l'entraîneur actuel pour lui dire tu vas laisser ta place.
Justement, j'étais en train de
penser.
C'est
pas dans les mœurs du foot, c'est dans les mœurs de l'entreprise. Dans combien d'entreprises on veut se séparer d'un collaborateur,
on va essayer.
Et puis on a préparé la suite avant de lui annoncer. Écoute, voilà, c'est fini.
Non, mais surtout Gilbert, enfin, je pense moi, ce qu'on va essayer de faire, c'est au prud'homme, parce que si jamais
Gislain
ne continue pas, ça va aller au prud'homme cette histoire.
Non, mais au prud'homme, c'est un CDD, donc de toute façon tu te sépares.
Non, mais si tu vas vont tenter une faute professionnelle, manque de résultats et tout ça. Et puis
ça,
voilà.
C'est un autre niveau d'élégance. Bah, là, si tu te sépares de quelqu'un, t'es plus content, bah tu lui payes.
Je pense que c'est la raison pour laquelle on n'a pas dit justement.
Tu as raison. Dans certains clubs, ça s'est vu récemment. On va au prud'homme pour essayer de gratter. Pas tout le temps.
Bah non, enfin souvent.
Donc attends, explique-moi. Alors donc dans les mœurs de l'entreprise et tout, comme tu dis, là ils viennent de terminer le match. Ils jouaient à domicile,
hein. Tout à fait.
Donc il y a pas de voyage en avion machin. Donc là ils sont tous rentrés à la maison.
Je sais pas, ils sont peut-être encore au stade. Il est tard là.
Il y a un derby, ils sont en massage.
Excuse-moi. Donc demain matin, rendez-vous pour le décrassage. Gislain Printemps vient pour le décrassage et c'est à ce moment-là qu'on lui dit tu fais tes cartons.
Il y a un dispositif légal, il y a un entretien préalable.
C'est comme ça qu'ils vont prendre.
Lui sait que demain il doit aller au décrassage et demain matin on va lui dire t'es convoqué pour l'entretien.
Imaginons que demain il y a un problème avec Puel. Bon. Bah, il faut peut-être qu'ils se mettent d'accord définitivement avec Puel avant d'organiser ça. Je sais pas. Tiens, Alain est là. Alain, bonsoir.
Bonsoir, Lester.
Alain, qu'est-ce que tu penses de cette histoire avant qu'on parle du match?
Moi, je pense que si Romailly avait l'élégance nécessaire, il filerait les 1,8 million que demande le Printemps.
C'est-à-dire le reste en but, la fin de son contrat, en fait.
Ouais, voilà. Et on se sépare de Printemps avec élégance, avec un peu de d'honneur, parce que dans cette histoire, franchement, les deux copains...
Romailly et Gazon.
Oui, les deux, ils ont été absolument assez lamentables. Ils n'ont pas eu du tout le sens de l'honneur, quoi. Ils sont laissés faire par les joueurs qui ont voulu nommer Printemps, alors qu'ils auraient dû eux prendre en main la chose. Et puis déjà nommer un directeur général en remplacement de Frédéric Paquet, ça aurait été peut-être un peu plus intelligent. Puis lequel directeur général aurait pris la décision de nommer un entraîneur valable. Printemps, ce qui est pathétique pour lui, c'est que c'est un amoureux du club en plus, c'est dramatique. Ils l'ont mis au casse-pipe dans un club qu'il adore, donc c'est vraiment c'est vraiment le comble de la malélégance, je trouve.
Je suis content que tu dises ça, Alain, parce que je dis aussi, mais moi on me dit c'est les mœurs du foot. Moi, je suis désolé. Considérez que demain matin, ce gars-là que j'ai pu moi aussi critiquer comme entraîneur, mais que le mec, on lui dise demain matin, tu viens au décrassage, et puis dans la foulée, on va te dégager, alors qu'on a rencontré Puel, que la France en... Excusez-moi.
Alors, on cautionne pas Daniel.
Je dis pas que tu cautionnes.
Dire, Auxerre, Giroud, il s'est fait aussi lourder comme ça.
C'est différent. Ils ont été malins avec.
C'était le menhir du club.
Pardon. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je dis pas que vous cautionnez. J'ai dans ce qui sont visiblement ce que vous appelez les mœurs du foot. On peut aussi être
malheureusement ça devient les mœurs.
On peut aussi être un minimum discret, c'est-à-dire ok t'as rencontré Puel, ok t'as préparé la suite, mais là tout le monde était au courant. Tiens, limite tout le monde était invité dans le resto où ils ont bouffé avec Puel. Sauf tout le monde était tout le monde était au courant que Puel était à Saint-Martin. Tout le monde était au courant limite de à quelle heure son avion arrivait. Le problème dans cette affaire à Saint-Étienne, c'est pareil, c'est que c'est une passoire ce club. Que ce soit le monde dans l'entreprise, comme dit Gilbert, je veux bien. C'est normal, tu veux te séparer de l'entraîneur. En coulisses, t'en rencontres un autre. Bon, tu changes comme tout va vite dans le foot. Il y a un match tous les trois jours. Bah, à un moment, il faut bien faire le changement. Tu lui dis, bon, écoute, gars, c'est fini avec toi. On prend l'autre. C'est arrivé plein de fois. Mais là, tout est étalé. Parce que les mecs, dans ce club, tout le monde parle à tout le monde. Tout le monde parle à tous les journalistes. Tout le monde est au courant. Et Printemps, personne va le voir. Excusez-moi de penser que c'est quand même une belle bande de tocards. Pardon, mais bon.
Faut qu'on parle du
reste. Là, moi, j'ai juste envie de défendre le pauvre Printemps dans cette affaire.
Bah, tout le monde a envie de le défendre.
Bah. Écoutez-le justement parler de sa situation et après, on parlera du match quand même. On y va.
Et mon amour pour ce métier-là. Et la passion que j'y mets. D'accord. Donc, j'aime entraîner, j'aime coacher. Si on décide que je ne serai plus le coach de la Saint-Étienne, bien sûr que ça sera un crève-cœur, parce qu'à un moment donné, on m'enlèvera quelque chose que j'aime, mais on a le droit de juger que c'est insuffisant, mais ce n'est pas à moi à répondre à cette question-là.
Voilà, donc on attend évidemment plus d'infos demain. Parlons maintenant du match. Alain, qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre ?
Alors, j'ai bénéficié d'une place qu'on m'a donnée, donc heureusement, j'ai pas payé pour ça, parce que c'était vraiment un très mauvais match. Des deux équipes d'ailleurs, parce que Wolfsburg était aussi mauvais que Saint-Étienne. Au début, première mi-temps, j'ai trouvé que c'était un match niveau Ligue 1, et en deuxième mi-temps, c'était un match niveau Ligue 2, voire national. Quand il y a eu la purge additionnelle de 4 minutes, il y a eu un petit éclair de génie, entre guillemets, avec la tête de Charabi qui aurait pu faire mouche. Et je comprends d'ailleurs même pas comment ce joueur il rentre pas plus tôt, à la place d'un Kazri qui fait rien, qui doit, à mon avis, reprendre tous ses fondamentaux. J'espère que Puel lui fera tirer des coups francs, 30 coups francs par jour pour qu'il réapprenne à tirer des coups francs, 30 corners du côté droit et 30 corners du côté gauche pour qu'il réapprenne à tirer des corners, et puis qu'il lui fasse faire 10 tours de terrain ou 20 tours de terrain par jour pour qu'il perde du poids. Mvilla qui joue dans un transat, on a l'impression qu'il est dans un transat avec un verre de rhum arrangé dans une main et un partagaz dans l'autre main. C'est insupportable ça. Kolodziejczak, on a l'impression qu'il n'est pas rentré du Mexique. Il est en deuxième mi-temps, il était pathétique, mais pathétique. Il y a des joueurs pathétiques dans ce club parce que ils n'ont pas.
Ah, Puel, il va avoir du mal à les réveiller. Hein.
Pardon.
Puel va avoir du mal à les réveiller parce que je ne sais pas quel genre de préparation foncière ils ont fait. Hein.
Il les fera remplacer parce que dans cette équipe, il y a quand même un effectif. Et donc, il y a une mise en concurrence possible. On peut les mettre en concurrence, tous ces joueurs. Donc, il y en a un seul qui me paraît irrécupérable, c'est Moukoudi. Moi, quand il est rentré, ça m'a fait peur. Moukoudi, c'est pas possible. Quand on voit la différence de qualité comme arrière central entre Moukoudi et Saliba,
c'est peut-être une pépite pour l'ASVEL, en fait. C'est ça qu'on n'a pas bien compris.
Pour Arsenal, puisqu'il est...
À mon avis, à la gare de Lyon, il a été dévié. Il devait aller à l'ASVEL et puis... Il a pris
Alain fait un constat quand même rude là sur ce qu'il a vu. Vous êtes d'accord avec lui là avant qu'on parle un peu de Wolfsburg?
Oui, il a raison. Alors après, moi, j'essaierai de trouver des points positifs. Alain, c'est que on peut pas leur avoir reproché, on peut pas leur reprocher d'avoir mouillé le maillot quand même. Alors le jeu, c'est pas ça. Je suis d'accord. C'est une purge, c'est tout ce qu'on veut. Mais moi, je trouve que les Stéphanois ont mis quand même. Ont eu un autre comportement, ils n'ont pas abdiqué, parce que s'ils avaient abdiqué, quoi qu'on en dise, contre Wolfsburg, ils auraient perdu au lieu de faire un match nul. Polo va nous en parler tout à l'heure, mais Wolfsburg, c'est difficile à manœuvrer, hein. C'est pas n'importe quelle équipe. Et donc, là-dessus, voilà, moi je garderai ce point positif. Quand on est malade, comme les Stéphanois sont malades, il faut au moins mettre ça, le mental, le comportement, l'allant. Ils l'ont fait maladroitement, il y a encore beaucoup de boulot dans le jeu.
Alors, Polo n'est pas un amoureux de Wolfsburg, hein, parce que lui, il préfère les Trabants aux Volkswagen.
Non, mais ça n'a rien à voir. Mais, non, mais moi, en fait.
Il y a quand même de belles Volkswagen, t'es d'accord?
C'est quand même une belle marque. Surtout qu'ils ont quand même quelque autre chose que des Volkswagen à proposer. Enfin, ils ont quasiment tout le parc.
Oui, effectivement.
Tout le parc automobile allemand.
Ils ont un parc assez immense.
Pour revenir au match, en fait, moi, il y a un titre en Allemagne que j'ai beaucoup apprécié. C'est en fait, Wolfsburg sécurise un point. En fait, la situation, on la connaît. Saint-Étienne était un peu en crise. C'est un peu le match de la dernière chance. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Lionel. C'est qu'ils ont essayé pendant un moment, notamment à la fin, etc. Il fallait absolument essayer de faire un résultat. Wolfsburg, ils sont contents avec leur match nul. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont gagné contre l'équipe ukrainienne la première journée. Ils ont fait le plus dur, entre guillemets, en allant prendre un point à Saint-Étienne, qui est supposé l'équipe, j'ai envie de dire, la seconde du groupe. Ensuite, maintenant, il y a le match. Ils vont s'arranger avec la Gantoise pour essayer d'aller en 16e de finale. Ensuite, la prestation de Wolfsburg. Moi, depuis le début, je vous dis que c'est une équipe qui est invaincue. Mais pour moi, il n'est pas invincible. C'est-à-dire que je suis assez déçu par la production globale de ce que fait Oliver Glasner depuis le début. Mais j'ai l'impression qu'ils n'avaient même pas peur, quelque part, de cette équipe, parce qu'ils remplacent, notamment sur la fin de match, des jeunes. Il fait rentrer des jeunes, style pour leur donner du temps de jeu par rapport aux anciens, comme Weghorst qui sort, et Mecha qui rentre, ou qu'on fait rentrer le Brésilien à la place de Brecalo, etc. Juste pour jouer en contre, et on ne sait jamais si j'ai une occasion pour gagner 2-1, finalement, c'est réglé. Non, enfin, c'est pas un match qui m'a passionné. J'étais plus intéressé par l'environnement global. Comme je vis un certain temps de l'année à Saint-Étienne, tout ce Barnum que vous expliquez très bien pour moi me fait rigoler parce que tout ce que j'entends là-bas, c'est parfois fois 10, fois 15. Mais ce qui est intéressant, je voudrais réagir sur Alain aussi, si tu veux, parce que t'as deux types de supporters à Saint-Étienne. T'as ceux qui, il y a une expression à Saint-Étienne, ce qu'on appelle les bossings. C'est-à-dire que il faut jamais que ça change trop non plus. C'est-à-dire qu'ils sont, il y en a quand même certains qui se disent, mais si monsieur Romeyer et monsieur Cayazo partent, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Vous me parlez de tout ce qui se passe en ce moment. Je vous rappelle de la vente ratée Pixis, où toutes les heures, quasiment, on avait un communiqué de presse qui nous expliquait le pourquoi du comment ça a raté du côté de Saint-Étienne. Enfin, c'est délirant. C'est pas du professionnalisme, ça. Moi, j'ai même pas envie de parler de ce que j'ai entendu quand j'étais à l'intérieur du club en rencontrant des personnes. Mais voilà, enfin, on est au 21e siècle, quoi. Il y a quand même, on est tout au 19e, j'ai envie de dire.
Écoute, Polo, merci pour tout ça.
C'est moi.
Tu veux dire un mot de Francfort?
Oui, alors match très moyen au Portugal, mais important contre Guimarães en l'emportant 1-0. But de Ndika, le Français que j'aime beaucoup, mais qui a perdu sa place malheureusement. Il a fait un très très bon match. À mon avis, il y a que lui d'ailleurs à sortir de cette équipe. C'est important parce qu'il avait perdu 3-0 à l'aller, la première journée contre Arsenal. Donc il se relance, donc c'est intéressant. Et Mönchengladbach était catastrophique, mais ils égalisent à la 91e.
En Turquie contre Başakşehir.
Bien sûr, oui.
Merci Polo.